France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, comment lutter contre la pollution de l'air? Question posée alors qu'on sort à peine d'un épisode de très forte pollution qui a touché une bonne partie de la France mais aussi de l'Europe. Pollution contre laquelle les collectivités locales ont lutté avec plus ou moins d'efficacité et de détermination. Circulation alternée ou différenciée par endroit, réduction de vitesse avec ou sans contrôle, mais aussi appel aux propriétaires de cheminées car il n'y a pas qu'une seule réponse pour lutter contre la pollution ou plutôt contre les pollutions, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Anne Hidalgo, la maire de Paris, présidente du C40. Bonsoir Anne Hidalgo.
Bonsoir.
Pierre Radan, l'ancien président de l'ADEME, désormais à la tête de l'association 4D comme dossiers et débats pour le développement durable. Bonsoir Pierre Radan. Et puis bien sûr, notre grand témoin du vendredi, Edgar Morin, qui est resté à nos côtés. Edgar Morin, dont un des tout derniers livres s'intitule « Écologiser l'homme », c'est chez Le Mieux Éditeur. Alors, n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner et poser vos questions. Pour cela, il y a le net avec le mot Estelson. Il y a aussi le standard 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et d'abord direction le standard de France Inter, où sans mauvais jeu de mots, c'est déjà l'embouteillage. Ce soir, vous êtes très nombreux à nous appeler. Visiblement, le sujet vous intéresse au plus haut point. Je le dis tout de suite, il y a beaucoup de Parisiens au standard, mais nous ne parlerons pas que de Paris. Ce soir, on parlera de Paris, mais pas seulement. On parlera aussi des autres villes, des autres secteurs concernés. D'ailleurs, cette semaine, c'est une grande partie de la France qui a été confrontée à la pollution. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, Grenoble vient de prolonger pour demain les mesures anti-pollution. Qui est au standard? C'est Yann, tout d'abord, qui nous appelle, eh bien, de Paris. Bonsoir Yann.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Alors, je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas l'attaché parlementaire de Madame Hidalgo, mais que je voulais préciser que j'en ai ras-le-bol d'entendre...
Elle n'est pas parlementaire.
Oui, je sais, oui. J'en ai ras-le-bol d'entendre les automobilistes plaindre des restrictions de circulation. Moi, ça fait 20 ans que je me déplace quasiment qu'en vélo à Paris, et depuis un mois, je ne peux plus me déplacer parce que l'air est devenu totalement irrespirable. Voilà, donc ça c'est un problème, et en même temps, puisque Madame Hidalgo est là, j'aimerais lui toucher juste un mot au niveau des parkings pour les vélos à Paris qui manquent énormément, et puis il y a un très très gros problème de vol de vélos, et ça c'est un frein pour que les gens s'équipent. Moi j'ai déjà eu deux vélos de volée, et voilà.
Eh bien, ça fait beaucoup de questions Yann.
Oui.
Juste une petite précision, puisque vous dites que vous ne pouvez plus faire de vélo, vous faites comment?
Ben, je prends le bus, le métro, voilà.
On se débrouille.
Ouais, on se débrouille. Ouais.
Merci beaucoup Yann pour ces questions. Anne Hidalgo,
merci
maire de
beaucoup.
Paris,
merci
présidente, je le précise, du C40, un réseau de 85 métropoles qui sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Voilà, les 40, enfin les 85 plus grandes métropoles mondiales aujourd'hui engagées. D'abord, je veux vous remercier pour ce que vous venez de dire et pour une émission qui n'est pas « Pourquoi faut-il lutter contre la pollution ?» mais bien sur le « Comment ?» Parce que le « Pourquoi ?», je pense que voilà, il faut qu'on arrête de se poser cette question. Il y a des changements de comportement qui sont forcément difficiles, parce que quand on a des habitudes, sortir de ses habitudes, ce n'est jamais simple, mais il faut vraiment qu'on puisse avancer. Ce que vient de dire Yann, c'est très juste. Ces derniers jours, avec le pic de pollution que l'on a connu, faire du vélo était problématique. Faire du sport dans l'espace public était quasiment dangereux. Interdire à des enfants dans une ville comme la nôtre de jouer dans les cours de récréation, leur dire que pendant les périodes de pollution, ils ne peuvent pas faire du sport, voir le nombre d'enfants, de bébés à Paris qui sont sous Ventoline, qui sont obligés de consulter parce qu'ils ont des bronchites, etc. Je dirais un peu comme Yann, ça suffit. Il y a un moment où on doit bien sûr parler du changement de comportement des automobilistes, mais aussi de tous ceux qui sont déjà engagés depuis longtemps, d'abord de tous les usagers des transports en commun, puisque c'est aussi une façon de lutter contre la pollution atmosphérique liée à Paris en très grande partie à l'automobile, et deuxièmement sur les vélos.
Alors Yann, il veut vous interpeller directement, parce que lui il est convaincu
des
mesures
absolument.
Que vous prenez, mais il voudrait des parkings, il voudrait...
Il a tout à fait raison, d'ailleurs on a voté au Conseil de Paris avec mon adjoint Christophe Najowski et toute ma majorité, un plan pour l'accélération de la pratique du vélo en ville, qui passe par des pistes cyclables cyclables plus nombreuses, sécurisées, des axes qui permettent de traverser nord-sud, est-ouest notre ville et des parkings à vélo. Parce que bien évidemment, même s'il y a la pratique de Vélip, qui est du vélo en partage et en libre service, il y a aussi beaucoup de Parisiens qui veulent faire du vélo leur mode de déplacement, leur outil pour se déplacer, y compris domicile-travail, de façon plus importante. Et donc les parkings font partie de ce plan pour sécuriser les vélos, parce que Yann a raison.
Parce que c'est pas marrant de se faire piquer son
vélo.
Bien
sûr, bien sûr. Donc voilà, ça fait partie de ce plan qui est déjà à l'œuvre. Hein. C'est pas un plan pour dans 5 ans, etc. Ça a été voté, c'est en train d'être mis en œuvre. Et donc, nous allons essayer de l'accélérer pour répondre, bien sûr, à tous ceux qui pratiquent le vélo en ville et qui, non seulement font du bien à nos poumons, mais font du bien parce que c'est une activité sportive et physique.
Alors, on va aussi s'arrêter peut-être d'abord sur des questions très pratiques. Pierre Radan, moi j'ai des questions à vous poser parce qu'on vient de vivre là un épisode exceptionnel. Oui. La moitié de la France était en alerte au début de la semaine. On nous a dit que c'est du jamais vu depuis 10 ans, c'est vrai, même à l'échelle de l'Europe. De quelle pollution parle-t-on? D'où viennent ces particules qui nous empoisonnent là en ce moment?
Écoutez, on est dans cette question de la pollution, on est, je dirais, au milieu du guet. On avait d'énormes pollutions industrielles liées au chauffage domestique dans le passé. On a supprimé le plomb dans l'essence. On a quasiment plus d'émissions de dioxyde de soufre. Donc on a fait, par rapport aux années 60, d'énormes progrès de réduction de la pollution. Faudrait pas croire qu'on reste au même niveau. Maintenant, par contre, ça se focalise sur la question des transports. Les transports sont très très dépendants de la consommation de pétrole. Et donc, inévitablement, ça émet des polluants. Et il faut qu'on gagne cette bataille-là, qu'on arrive à faire que la ville soit agréable à vivre en protégeant et en garantissant la santé des populations. Donc maintenant, il faut qu'on se focalise sur cette bataille-là. Alors, c'est essentiellement les dioxydes d'azote, c'est les particules. Et si vous voulez, c'est pas seulement les grosses particules, celles qu'on repère, qu'on sent. C'est les petites qui vont au plus profond de vos poumons et qui, bien évidemment, font une atteinte à la santé. Donc, il faut qu'on gagne cette bataille-là.
Parce qu'il y a des choses qui ont été surprenantes quand même cette semaine. On nous a dit, il y a même la pollution en Bretagne. On se disait, en Bretagne, il y a du vent, tout va bien.
Oui, mais ne croyez pas que la pollution n'est qu'un problème urbain et qu'un problème uniquement de circulation. On a une pollution de fond qui est liée aussi aux pratiques agricoles. Et donc, on a aujourd'hui, je dirais, une nappe de pollution qui touche l'ensemble du pays. Alors bien sûr, les vallées alpines, les endroits comme ça sont très très fragiles. La zone centrale de Paris, quand on est en anticyclone, y a pas de vent, ça ne circule pas, ça ne s'aère pas, et donc à ce moment-là, on a des poches de pollution.
On repart au standard, c'est Suzelle qui nous appelle cette fois de l'Isère, comme quoi effectivement le problème est bien général. Bonsoir Suzelle.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Moi, je vous en
prie. Bonsoir Madame Hidalgo.
Bonsoir.
Ma question concerne l'acquisition de la vignette que j'ai effectuée sur un formulaire. Et cette vignette est-elle valable sur l'ensemble des métropoles de France concernées par la pollution, ou n'est-elle valable que pour le secteur dans lequel on habite? Moi, je dépends de Grenoble.
Voilà, la fameuse vignette critère qui sert déjà à Grenoble, à Lyon et à Paris. Qui veut répondre? Anne Hidalgo.
En fait, elle est valable dans les villes qui ont déterminé ces zones à circulation restreinte. Donc, vous les avez citées, notamment Grenoble, Paris. Elle est très utile également au moment de pic de pollution pour identifier les véhicules qui vont pouvoir circuler. Ça a été le cas de Lyon. Lyon s'est appuyé sur notamment les vignettes pour pouvoir déterminer.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le ministère de l'Environnement qui a mis en place ce système, en fait, et qui a proposé aux villes ou aux secteurs de l'adopter.
C'était une demande de assez longue date. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats. D'autres villes européennes, plus de 200 villes à l'échelle européenne, européennes ont déjà adopté ce type de mesures de restriction de la circulation basées sur la nature de la pollution émise par les véhicules. En France, il y avait eu une tentative sous le gouvernement de droite de Monsieur Fillon qui était de faire ce qu'on appelait une ZAPA, des zones
d'amélioration.
Voilà. Sauf qu'il n'y avait pas du tout de moyens, il n'y avait pas du tout d'indication sur comment on allait faire. Donc nous, par exemple, Paris, on avait essayé, j'étais pas encore maire à l'époque, on avait essayé de rentrer dans cette discussion. Ça nous intéressait de créer une zone pour la protection et l'amélioration de l'air. Et en même temps, on n'avait absolument aucun outil. La loi de transition énergétique qui a été portée et écologique portée par Ségolène Royal a permis de donner la possibilité aux villes qui le souhaitent de pouvoir créer ces zones et en même temps à donner des outils permettant de fonctionner, d'identifier les véhicules selon leur niveau de pollution, ces fameuses vignettes critères. Donc Paris s'est engagé tout de suite, Grenoble s'est engagé tout de suite, Lyon vient à travers notamment aussi ce pic de pollution. Donc voilà, partout où ces zones à circulation restreinte existent, ces vignettes sont utiles. Donc je veux d'abord vous saluer, vous remercier madame d'avoir
acheté
cette vignette.
Pierre Adan.
Oui, vous comprenez qu'au tout début, quand on a commencé à se préoccuper du problème, eh bien, on a mis en place un système, je dirais, entre nous, un tout petit peu barbare, hein, qui était plaque pair, plaque impair. Alors, il y a plein de gens qui avaient la plaque du mauvais numéro, qui ont pris leur voiture alors qu'ils avaient probablement des solutions de ravitaillement. Et puis, vous avez des gens qui avaient la plaque du mauvais numéro, qui pour des, je sais pas, par exemple, handicapés, enfants en bas âge, professionnels, c'était pour eux très, très difficile, très bloquant, que d'avoir ce système alternatif. Et donc là, on est maintenant dans un jeu dans lequel il faut que on soit sur une tendance de long terme, qu'on fasse appel au civisme des gens, que ceux qui peuvent ne pas se déplacer par des voitures en période de pollution ne le fassent pas, et puis bien évidemment donner un avantage à ceux qui ont des véhicules propres. Mais encore une fois, tout ça va se faire au fil du temps. Encore une fois, la question derrière, c'est une question de civisme.
C'est une question civile. Alors, je vais passer la parole à Edgar Morin dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on entende Martin et Gérard. D'abord Martin, peut-être, qui nous appelle de Tours. Bonsoir Martin, êtes-vous là ?
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Alors moi, je voudrais dire que c'est un sujet que je connais bien. Il y a 25 ans, j'ai participé à des réunions où, justement, on savait qu'on aurait une grosse pollution. Il y a 25 ans, la pollution était beaucoup plus importante que maintenant. La pollution, elle vient de trois ou quatre axes. Bien sûr, elle vient de l'industrie, notamment l'industrie de pétrochimique. Elle vient des voitures, elle vient des bovins, l'industrie animale. Et puis aussi, elle vient des frontières. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut effectivement régler le problème de la pollution. On dit voiture, tout électrique, terminé. Toutes les autres, on les arrête. Premier point. Alors, là, j'exagère volontairement. Deuxièmement, on tue toutes les vaches. Troisièmement, on ferme les usines, on va faire du chômage. Et quatrièmement, on met un mur, comme dirait.
Mais je vais être obligé de vous presser un petit peu, Martin, parce que vous êtes tellement nombreux ce soir qu'il faudrait que.
Oui, non, mais je dois vous dire une chose, c'est que quand j'entends le discours de Mme Hidalgo qui dit les voitures, etc., il y a 25 ans, c'est elle et les hommes politiques encourageaient le diesel. On a construit à coût de centaines de millions des usines de biocarburants. On a fait du diester
merci.
À partir du colza.
Merci Martin, hein. Je suis obligé de vous couper parce qu'il faut que tout le monde ait la parole. En tout cas, un grand merci. Et puis la question des frontières, je vous promets qu'on va y répondre. Mais on écoute rapidement Gérard qui nous appelle de la Loire. Bonsoir Gérard.
Bonsoir à tous et bonsoir à Pierre Radan. Moi, j'ai une autre vision qui est complémentaire, hein, qui ne contredit pas les précédentes. C'est qu'à mon avis, si les métropoles sont polluées, c'est qu'elles sont beaucoup trop grandes en France et partout dans le monde. Pékin, Shanghai, Tokyo, etc. Et cet engorgement s'accentue en ce moment avec la métropolisation. Dans le même temps, les territoires ruraux dont je fais partie se dépeuplent, pas tous bien sûr, mais dans la plupart des pays du monde. Il y a un problème de réaménagement du territoire.
Merci.
Et je voudrais dire que, par exemple, dans mon petit territoire, on a tout ce qu'il faut pour attirer des entreprises, y compris la fibre optique, dans toutes les maisons dès cette année. Vous voyez, on n'est pas des gens paumés.
Voilà,
on
mettons
est
les villes à la campagne. Merci Gérard, un grand merci de nous avoir appelés, Edgar Morin.
Oui, ben là, écoutez, moi je crois que les mesures qui sont prises sont bonnes et il faudrait, je crois, l'attention et les amplifier énormément. Un facteur favorable, c'est que la concurrence internationale a fait sortir l'industrie automobile française de l'immobilisme et de se lancer vers l'hybride et vers l'électrique, etc. Ça, c'est très important parce qu'il y a eu une résistance formidable et des pressions de l'industrie automobile française. Alors, la vignette ne peut qu'encourager ce mouvement-là. Il y a aussi l'idée que vous avez développée déjà de piétoniser une partie du centre. Moi, je crois qu'il faut arriver à la piétonisation de tout le centre historique de Paris, avec les vélos, bien entendu, avec les transports publics, etc. Et alors, il y a une chose qui m'a semblé importante. Je pensais à Fribourg, en Allemagne, où ils ont fait des parkings périphériques. Est-ce que c'est possible de créer des très vastes parkings pour les banlieusards, de façon à ce qu'ils laissent leurs voitures aux portes de Paris, que comme à Fribourg, on leur donne un titre de transport gratuit, qu'ils puissent utiliser les bus. Ça serait extrêmement important parce que une grande partie du trafic vient maintenant de plus en plus des banlieusards que des Parisiens. Moi, je suis un Parisien qui a abandonné ma voiture en 1984. Voilà. Bon. Et un dernier point qui vient d'être dit par l'intervenant. Encourager ce mouvement où l'immigration cesse de se concentrer sur les villes et de plus en plus avec le télétravail, avec les jeunes qui veulent se consacrer au bureau, avec tout ça, on puisse véritablement décongestionner nos villes. Donc, je pense que, et c'est un peu l'intention de Anne Hidalgo, c'est une lutte sur plusieurs fronts à la fois, il faut concentrer les efforts. Mais je vous pose la question, Anne Hidalgo, sur ces parkings périphériques. Est-ce que c'est possible?
Alors, peut-être, je vais répondre bien sûr à cette question, mais aussi aux auditeurs précédents. Moi, ça fait pas 25 ans que je fais de la politique, donc je ne me sens pas du tout responsable de cette politique industrielle qui a donné la faveur au diesel. Et dès que j'ai commencé à savoir, à comprendre ce qui se passait sur ce terrain-là, y compris les mensonges qui étaient proférés sur la soi-disant non-nocivité du diesel et la soi-disant efficacité des filtres à particules, je me suis engagée d'une façon particulièrement forte, puisque j'ai y compris dit que nous bannirons le diesel à Paris d'ici 2020, qu'avec beaucoup de villes du C40, donc ces fameuses grandes métropoles mondiales, nous nous sommes engagés pour qu'il soit banni, y compris d'autres villes d'ici 2025, et que ce combat sur la question du diesel, qui effectivement, et l'auditeur précédent a raison, a été soutenu par toutes nos politiques industrielles et fiscales et complètement soutenu à l'échelle européenne, c'est un désastre. Ça fait un moment qu'on est un certain nombre à dire que c'est de l'ordre du scandale de l'amiante ou de l'ordre de scandale type le Mediator, ce qui se passe sur ce terrain-là. Alors, donc, et bien sûr, à pousser les constructeurs, et je l'ai fait très tôt, je fais une réunion prochainement avec les maires du C40 et les constructeurs automobiles européens et à l'international, pour les pousser à accélérer le mouvement vers l'électrique ou l'hydrogène. Ça, ça me paraît très important.
Question quand même sur Anne Hidalgo, si vous permettez, parce que vous, effectivement, vous souhaitez qu'il n'y ait plus de voitures diesel dans Paris, les voitures les plus polluantes, les plus anciennes, mais il y a quand même des questions qui se posent, hein, parce que c'est souvent ceux qui ont les plus bas revenus, qui ont ces vieilles voitures, qui, maintenant, sont quasiment interdites dans Paris. C'est un vrai problème. Vous proposez une aide de 400 € pour un abonnement Navigo ou l'achat d'un vélo, mais ça ne remplace pas une voiture quand on doit partir au boulot très tôt le matin.
D'abord, c'est très faux de dire que ce sont les ménages les plus modestes qui seraient pénalisés parce que à Paris, les ménages les plus modestes n'utilisent pas leur voiture pour aller travailler. Dans les déplacements qui sont les déplacements, y compris des franciliens, les gens utilisent des transports en commun. On parle et on me parle en permanence de 40 000 automobilistes qui seraient bloqués, qui ne pourraient plus rentrer dans le centre historique, et je rejoins la volonté qu'a exprimé et Edgar Morin sur ce que doit être ce centre de Paris de plus en plus piéton, mais on ne parle jamais des 10 millions de voyages jour qui sont faits en transport en commun dans toute l'île de France, parce que l'essentiel de la population francilienne et parisienne, et notamment les plus modestes, se déplace avec les transports en commun. D'abord parce que ça coûte moins cher, et parce que même s'il faut mettre l'accent sur le confort, sur l'amélioration du confort de cette desserte, notamment avec la banlieue, qu'on arrête de nous expliquer qu'il y aurait là un élément discriminant.
Mais la question aujourd'hui, d'Edgar Morin était une bonne question
sur les
parkings.
Je vais répondre sur les parkings, mais aujourd'hui, la pollution, elle touche aussi les plus modestes. Il y a toute une partie des populations qui habitent à proximité des grands axes, à proximité du périphérique. C'est là qu'il y a les taux de pollution les plus importants. C'est là que se concentre aussi une partie de l'habitat social, pas uniquement, parce qu'on en fait partout dans Paris, mais la pollution, elle ne discrimine pas et elle vise et elle touche aussi en particulier les plus modestes, parce qu'ils habitent souvent dans les zones qui sont les plus exposées à cette pollution automobile. Donc on arrête avec ces espèces de raisonnements valises qui ne sont pas du tout étayés et pas du tout réels. Et nous avons mis en place, oui, des aides, y compris pour les personnes qui ne peuvent pas se passer d'un véhicule, parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas se passer d'un véhicule, pour qu'elles puissent passer du diesel ou de la vieille voiture à un véhicule propre. Nous avons des aides, y compris pour les commerçants et artisans, qui peuvent permettre de, qui peuvent aller en se cumulant avec celles de l'État jusqu'à 9000 euros pour un certain nombre de véhicules, ce qui n'est quand même pas rien. Sur la question de Edgar Morin, moi je suis très favorable à cela. On a un problème, c'est que les communes, notamment de la petite couronne ou de la grande couronne, nous disent mais nous on veut pas ces parkings-là. On veut pas des parkings qui soient finalement les aspirateurs de voitures qui viendraient toutes s'entreposer chez nous pour aller tranquillement chez vous après. Il faut bien sûr qu'il y ait des parkings de cette nature qui permettent, je pense notamment sur les liaisons avec des villes qui sont en grande couronne parisienne, pour qu'on puisse effectivement avoir plusieurs modes de transport.
Il y a un vrai problème de coordination et de dialogue entre Paris et puis tout ce qui est autour et la région.
Alors pas au niveau de la métropole, parce que aujourd'hui, vous savez, nous avons une instance de gouvernance. Elle est présidée par Patrick Ollier, qui est un homme de dialogue. C'est le maire de Rueil-Malmaison. Nous siégeons des maires de droite, de gauche, écologistes, centre et communistes. Bref, on travaille tous ensemble et on est très engagés dans cette perception. Nos populations, elles sont confrontées à la même pollution. Donc on avance. Mais il y a la question des parkings, il y a la question de toutes les facilités qu'on peut donner pour avoir des transports plus efficaces, plus confortables. Il y a toutes ces formes aussi de partage, d'autopartage, de covoiturage. Je suis d'accord par exemple avec Stéphane Baudet, qui est le président de l'Association des maires d'Île-de-France et vice-président à la région Île-de-France, qui dit si on pouvait faire beaucoup plus de covoiturage sur les autoroutes franciliennes, on diminuerait la pollution de façon très très importante. Et je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a du télétravail, il y a aussi des formes qui peuvent aller. Je ne suis pas pour que nos métropoles deviennent des métropoles invivables parce que trop nombreuses, parce que prenant les terres agricoles et naturelles dont on a besoin autour de nous. Donc il faut maîtriser aussi l'urbanisation.
Alors on va repartir au standard. On a dit qu'on parlait de Paris, mais pas que de Paris. Et nous avons un appel de Sallanches. C'est Vincent qui nous appelle. Vincent, vous êtes en ligne ?
Oui, je suis en ligne.
Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir à vous. Merci de me donner la parole.
Je vous en prie.
Je pense que Sallanches vous dit quelque chose. On était un peu au cœur de...
Le souvenir d'avoir eu, il y a eu des manifestations au mois de décembre, c'est ça ?
Oui, encore dernièrement. Enfin, on a fait pas mal de mobilisation et puis de sensibilisation, parce que on est au pied, pour les auditeurs qui connaissent pas, on est au pied du toit de l'Europe, du Mont Blanc, et on est aussi on a le toit de l'Europe des concentrations en particules et de pollution de l'air, parce qu'on a les taux les plus marqués européens, aussi bien dans l'élévation et aussi dans la durée, parce qu'on fait partie des points noirs européens et français. Et ma question, je vais essayer d'être simple. c'est une petite incompréhension, en fin de compte, sur les actions qui sont menées par rapport à ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on lit toutes les études, et encore une qui est parue dernièrement, commentée par Atmo, nous montre que lors de ces pics de pollution qu'on a sur tout le territoire, hein, alors plus marqué sur les vallées alpines, mais sur l'ensemble du territoire, on monte du doigt le chauffage domestique biomasse et plus particulièrement bois, à l'origine de entre 60 et 80% des émissions de particules fines et ultra fines, hein, PM10, PM2,5, alors que tout ce qu'on entend aujourd'hui, les actions qui sont mises en place ne portent que sur le transport. Lors de ces pics de pollution, hein, je ne parle pas dans les actions de fond, et encore même sur les actions de fond, hein, et on ne comprend pas, c'est comme si demain
on posait la question à Pierre Radan, peut-être qu'il va pouvoir nous éclairer. Merci pour cette question, Vincent.
Oui, il y a un problème sur le chauffage au bois, mais faut être au clair. Une cheminée ouverte n'a un rendement que 10%. Elle ne chauffe que pour 10% le logement. 90% part par la cheminée, et c'est des combustions incomplètes. Donc avec plein de particules, plein de difficultés comme ça. Et puis vous avez par contre des chauffages au bois, y compris pour les ménages, qui sont extraordinairement performants. Qui ont des systèmes de combustion qui font que ce qui est rejeté par la cheminée, c'est essentiellement du CO2 et de l'eau. Et donc, pas, ou très peu, de particules. Donc là, il y a un vrai problème de modernisation du système de chauffage à bois. Et puis, à côté du chauffage individuel, il y a aussi les chauffages collectifs, et pour lesquels, à ce moment-là, on a des systèmes d'épuration des fumées, comme n'importe quelle grande chaufferie industrielle. Donc, le bois n'est pas à condamner. Par contre, on a un vrai problème d'amélioration de la qualité des modes de chauffage, et puis notamment, bien sûr, dans des zones les plus vulnérables. Alors, c'est vrai que nos amis des Alpes ont à proximité une belle ressource qui est utile, donc raison de plus pour que, je dirais, qu'il y a un effort qui soit fait dans cette direction-là. Si je voudrais répondre aussi quand même à quelques petites questions précédentes.
La question sur les frontières, hein, Pierre Radan, on n'y a pas répondu, c'était Martin qui demandait si c'était les autres qui nous polluaient, mais c'est vrai que ça revient souvent, les centrales allemandes, nous on pollue les autres aussi.
Bien sûr, mais il faut pas. Si vous voulez, là, la question telle qu'elle est posée, c'est quand même essentiellement une pollution locale, régionale. C'est pas, je dirais, des grands mouvements de pollution qui vont, je dirais, d'un pays à l'autre. Mais bien évidemment, encore une fois, il y a pas de panneau de sens interdit à nos frontières. Quand même, deux petites remarques tout de même. La densité n'est pas complètement négative dans la discussion qu'on a. Parce que la densité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des réseaux de transport collectif de bonne qualité et qu'au lieu, comme c'est souvent à la campagne, obligé d'avoir une voiture, vous avez une offre diversifiée de systèmes de transport. Donc la densité n'est pas totalement négative. Alors, il y a un vrai problème sur l'Île-de-France, qui est quand même qu'entre l'énorme effort qui avait été fait au tout début du XXe siècle avec la mise en place du métro, faut quand même bien reconnaître que les pouvoirs publics, pendant 70 ans, n'ont pas fait l'extension des transports publics de façon correcte sur l'ensemble de l'agglomération. Et donc, on a aujourd'hui un réseau dans la partie dense de l'agglomération qui est d'une exceptionnelle qualité. Et puis, je dirais, sur le reste de l'agglomération parisienne ou sur les banlieues des autres villes, là, on a un déficit. Donc, il faut qu'on reprenne ça. C'est un effort qui est engagé avec les travaux
Paris Express, les
nouveaux métros, etc. Ouais. Dans l'agglomération, donc c'est une bataille qu'il faut gagner dans les 20 ans qui viennent, et c'est tout à fait à notre portée.
Voilà, on repart au standard, cette fois c'est Romain qui est en ligne, on me dit qu'il a 14 ans, qui nous appelle des Pays de la Loire. Bonsoir Romain.
Bonsoir, alors j'habite à Angers, donc bonsoir.
Bonsoir,
alors,
bonsoir à toi.
J'avais une question, c'est vaut-il mieux aller au collège à pied ou à vélo? Car le problème est de ne pas utiliser la voiture, mais en faisant du sport, on attrape des particules fines.
Bonne question, Romain. Excellente question. Qui veut lui répondre?
Bon, je veux bien lui répondre. Oui, effectivement. Le vélo, c'est bien, et surtout dans la belle ville d'Angers. Il a aussi le tramway maintenant, Angers. Hein. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Un point quand même sur la question de la pollution. On parle de la pollution à l'extérieur. Faut aussi parler et ne pas oublier la pollution interne des logements. Bon. Et donc, là, pour le coup, s'aérer, c'est quand même utile, c'est nécessaire. Il n'y a pas, de grands soucis, quand même, de grands soucis à se faire, encore une fois. À partir du moment où on investit, chacun investit, prend son rôle dans la société en termes de civisme, quand il y a des problèmes de pollution, eh bien, on fait tout ce que l'on peut, chacun d'entre nous, pour réduire notre contribution. Si chacun va mieux, tout le monde ira mieux.
Edgar Morin, un petit mot.
Oui, bon, je voulais ajouter la pollution non atmosphérique, c'est-à-dire la pollution rurale, toutes ces terres qui sont complètement dégradées, avec les engrais que l'on met, qu'il n'y a plus de vie, et les produits qui sont de mauvaise qualité et mauvais pour la santé. Il y a aussi une effort, et qui nous touche dans les villes, puisque c'est ça que nous consommons dans les villes. Et il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est un problème de comportement qui est un problème de civilisation. Parce que, comme il y a eu une dégradation de la solidarité, de la coopérativité, je pense que les comportements sont de plus en plus égoïstes. Il faut qu'on fasse une politique, moi j'appelle de civilisation, pour relancer les solidarités, pour relancer les... Vous parlez du copotirage, c'est ça aussi, c'est un des aspects de... Et il faut que les gens aient en profondeur la conscience écologique, c'est pas seulement d'aller à la campagne, c'est de penser qu'il faut sauver les villes et nos vies quotidiennes.
Voilà, Edgar Morin, très bien. Une question d'Alexandre, là c'est une question sur Internet. Pourquoi existe-t-il des disparités régionales? Pourquoi dans les autres régions, tout aussi polluées, des mesures n'ont pas été prises? Anne Hidalgo, pourquoi est-ce que Paris prend des mesures, Grenoble aussi?
Oui, c'est une question de volonté politique. Hein. La loi laisse le choix d'organiser ces mesures aux maires, aux présidents des régions qui souhaitent le faire. Quand je vois les campagnes orchestrées avec... J'étais très choquée quand, pendant les pics de pollution, on tendait le micro qu'à des automobilistes qui disaient combien c'était gênant pour eux d'abandonner leur voiture, et en même temps on n'allait pas voir ce qui se passait dans les hôpitaux avec les urgences surchargées. Finalement on y arrive, je suis contente que, pour moi maintenant, la bataille est gagnée, hein, pour tout vous dire, et on a, je pense, réussi à faire comprendre qu'il ne s'agit pas de lubie de qui que ce soit, il ne s'agit pas d'une guerre contre les voitures, c'est une bataille contre la pollution pour notre santé, et que effectivement ça nous impose d'avoir des comportements nouveaux. Il y a le civisme, il y a la compréhension du fait que la santé publique est un bien commun. Il faut que les responsables politiques sont responsables de leurs actes et aussi des actes qu'ils ne posent pas. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'affaires qui vont aller au pénal en recherche de responsabilité pour des politiques qui n'auraient pas agi alors qu'ils connaissent les risques. Et aujourd'hui, les risques, on les connaît. L'OMS nous livre les éléments d'information sur le nombre de morts liées à la pollution atmosphérique dans nos villes, dans nos pays. Donc, c'est très très important de se sentir concerné et d'agir. Et il faut beaucoup de volontarisme pour affronter quand même tout cela. Je veux juste redire une chose, parce qu'on a parlé notamment de la densité. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pierre Radane. Par exemple, lundi, au Conseil de Paris, nous allons voter un plan qui est un plan qui engage Paris avec les agriculteurs. Nous sommes avec la Chambre d'agriculture, nous sommes avec différentes organisations agricoles pour que, d'abord, nous les aidions. Eux, ils nous aident à manger sain, et il y a les circuits courts, il y a le bio, il y a tout ce soutien-là. Mais les villes, une ville comme Paris, à travers notamment tout ce que nous faisons dans les cantines scolaires, finance aussi et peut soutenir une agriculture qui est une agriculture dont on a besoin en circuit court, et une agriculture bio ou une agriculture raisonnée. Donc, par exemple, dans ces solidarités, lundi, on va parler au Conseil de Paris de cette relation entre le monde paysan et une ville comme Paris.
François est en ligne de Fontenay-sous-Bois, région parisienne. Bonsoir François.
Bonsoir, bonsoir Madame le maire.
Bonsoir.
François de l'association Udelsim, vous nous connaissez. Alors, moi je suis...
Moi je ne connais pas, dites-moi ce que c'est l'association en question.
Nous sommes l'association Udelsim, l'Union pour la... Excusez-moi, je bégaye, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. L'association, l'Union pour la liberté de circuler motorisée. Alors, moi, je suis artisan, je livre, répare et installe des ordinateurs sur Paris notamment. J'habite en banlieue. Je n'ai plus le droit d'utiliser mon véhicule dans Paris. Donc maintenant, j'installe par métro. Donc de 17 ordinateurs, je passe à 2 en moyenne. Pas plus tard qu'hier, j'ai cassé un ordinateur dans le métro parce que le métro est bondé. Donc je fais comment, puisque je n'ai pas non plus le droit aux aides, vu que je n'habite pas Paris.
Eh bien, on pose la question, François.
Je vais vous répondre tout de suite. D'abord, c'est faux, vous avez droit aux aides. Si vous travaillez dans Paris, même si vous habitez à l'extérieur de Paris, les aides aux commerçants, artisans sont ouvertes, et donc y compris pour acheter un véhicule propre. Donc ces aides, elles existent. Allez consulter sur le site de la mairie de Paris. Deuxièmement, il existe des systèmes aujourd'hui de d'autopartage pour les artisans que nous avons d'ailleurs imaginé avec Autolib et avec la Chambre des métiers qui représente les artisans et les commerçants. Par exemple, Utilib, c'est un véhicule électrique que vous pouvez louer, qui d'ailleurs n'est pas simplement dans Paris, puisque c'est toutes les stations Autolib de la région parisienne qui peuvent avoir ces Autolib. C'est des Autolib rouges qui ont un coffre adapté justement aux commerçants et artisans qui ont besoin de faire des livraisons. Donc vous voyez, les outils existent, il suffit de se renseigner pour effectivement pouvoir les trouver.
Alors cette émission touche à sa fin, on va faire un dernier tour de table. Pierre Radan, plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est de lutter à long terme contre la pollution, pas uniquement quand il y a des pics?
Bien évidemment, mais c'est surtout qu'on ait une vigilance collective et que quand il y a des alertes qui nous soient données, chacun va chercher sa petite marge de manœuvre qui va faire que ça va diminuer un problème collectif. Vous voyez, c'est pas seulement une question technique, c'est quand même, comme le disait Edgar Morin, c'est une question de faire société ensemble et que c'est quand même comme ça qu'on va s'en sortir. Et puis, cette affaire de vignette, c'est une très très bonne chose parce que ça permet de mobiliser l'ensemble des acteurs qui peuvent, encore une fois, agir. Et puis, pour ceux qui ont, je dirais, des contraintes majeures, des contraintes professionnelles, eh bien, pouvoir en tenir compte.
Dernier tour de table, donc Edgar Morin, le mot de la fin pour vous.
Moi, je crois qu'il faut une coalition de moyens extrêmement différents et convergents, obsédés avec cette finalité de la santé publique et du mieux vivre, et cette coalition moi je crois qu'on est en marche pour ça, mais je crois qu'il faudrait que vous ayez encore beaucoup plus de moyens.
Ça c'est pour Anne Hidalgo.
Merci, oui, je crois qu'il faut poser le débat sereinement, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas de clivage manichéen, il n'y a pas ceux qui ont raison sur tout, ceux qui ont tort sur tout, mais en tous les cas la santé publique, la santé de nos enfants, cette transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, on sait que si nous ne la conduisons pas de façon rapide, volontariste, avec des moyens massifs, eh bien, nous ne gagnerons pas, pour le coup, la partie contre ce qui est en train de nous arriver. Nous savons, nous sommes au bord du gouffre. On a quelques années, l'accord sur le climat de Paris l'a très bien dit, on a quelques années pour essayer d'inverser les choses et d'offrir à nos enfants une possibilité de vivre sur une planète respirable et plus aimable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc allons-y, c'est quand même un défi magnifique et oublions, c'est vrai, il faut changer nos comportements, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement enthousiasmant de se dire qu'on peut aussi inventer ce monde de demain pour nos enfants et qu'ils nous en seront reconnaissants et nous serons heureux d'avoir fait cette chose parce que c'est la seule chose que nous ayons à faire aujourd'hui, relever ce défi climatique.
Avec notamment les nouvelles générations. Pierre Radan, là, 10 secondes, pas plus.
Pour aimer ce siècle tous ensemble. Voilà.
Ça c'était magnifique comme conclusion. Un grand merci à vous Pierre Radan, un grand merci Anne Hidalgo, un grand merci Edgar Morin. Je rappelle le titre donc d'un de vos derniers livres, Écologiser l'homme, c'est chez Le Mieux éditeur. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Irène Menahem, Jérémy Younes, Lorraine Bess. Merci aussi à nos amis de la documentation d'actualité dont le travail est si précieux à Radio France, à la réalisation ce soir Éric Lenné, à la technique Michel Béziquian, Henri Bérec, Dimitri Gronoff. Merci aussi aux jeunes standardistes de l'émission.